fièvre, aïe.
Salut à vous à la recherche du groove perdu, session 299, émission musicale à géométrie variable diffusée sur RDWA, Radio Saint-Ferrol, Radio Dragon et Radio Transparence. Troisième émission cette semaine consacrée aux chansons écologiques, vertes et apocalyptiques, où il sera question cette semaine d'un autre sujet très réjouissant, la fin du monde, le jugement dernier, l'Armageddon, l'apocalypse, le grand déluge, l'effondrement de notre civilisation qui serait imminent. Sujet très à la mode avec un catastrophisme légèrement angoissant pour celui qui laisse traîner ses oreilles et ses yeux sur les médias, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Face à cette menace, plusieurs attitudes, pardon, la sinistrose aiguë avec comme mot d'ordre « on va tous crever », abreuvé de journaux télévisés, de radios et de sites internet. Vous ne voyez plus l'intérêt de vivre et de faire des enfants, vous prenez des anxiolytiques, consultez les sites spécialisés sur le sujet, postez des vidéos alarmantes sur l'augmentation des températures moyennes d'ici 2030. Deuxième attitude, la collapso-attitude qui consiste à voir dans l'effondrement une chance réelle de modifier nos modes de vie. Vous lisez Pablo Servigne et les autres apôtres de ce nouveau courant de pensée. Vous prenez ça avec sérieux, mais vous pouvez encore trinquer avec vos potes avant le déluge. Troisième attitude, celle de nos politiques, la technique dite de l'autruche. On se doute un peu que ça va pas dans le bon sens, mais si ça se trouve, c'est pas pour tout de suite. Et puis la science et le progrès nous sauveront. Quatrième et dernière attitude, la peur, l'angoisse tellement forte que vous en venez à réfléchir sur l'issue possible après la catastrophe. Vous vous construisez un bunker, vous apprenez à survivre en milieu hostile et vous avez toujours un sac avec le strict nécessaire de près au cas où. Voilà, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez, peut-être aucune d'entre elles comme moi. Vous pouvez ne pas préparer vos bagages tout de suite. Je pense qu'il y a peut-être une raison d'espérer, vous allez voir pourquoi. En 1978, le grand médium et accessoirement couturier Paco Rabanne nous prédisait une fin du monde pour les années 90. En 99, il annonçait la prochaine fin du monde dans son ouvrage 1999, Le feu du ciel. Dans son bouquin, il prédisait qu'à 11h22, très précise, le 11 août 1999, la station spatiale Mir allait s'écraser sur Terre. Les débris tombés devait détruire Paris et plusieurs autres cités. Le point d'impact était précis, le château de Vincennes, et la description de l'apocalypse tout autant, des incendies gigantesques, des débris de plutonium ravageant Paris, mais aussi plusieurs villes du sud-ouest comme Auch, Mirande ou Marmande. Merci Paco de nous redonner l'espoir. Est-ce que tu pourrais nous prédire prochainement une fin du monde pour 2050? Histoire qu'on a encore un sursis de plusieurs milliers d'années, on démarre donc par lui, notre sauveur. C'est parti. On était en 1978.
Il a travaillé dans l'atelier d'architecte de Benjamin Perret qui lança le béton armé. Le béton de Paco, c'est le jersey d'aluminium, le plastique et cette année un nouveau tissu ignifugé.
Nouvelle façon d'enduire le tissu de métal pour le rendre ininflammable et qui vient, c'est une technique de l'aviation. Et cette année, tous mes manteaux sont faits anti-feu.
Est-ce que vous croyez que les femmes ont tellement l'occasion de prendre feu dans la vie?
Vous savez, moi je crois que la mode est prophétique. Et la mode annonce le futur. Le futur pour moi est une catastrophe. C'est le feu qui se répand sur tous les gens. Car venant de l'architecture, où j'ai appris beaucoup de choses sur le symbole et sur la prémonition, enfin sur les architectures qui marquent le temps, qui annoncent des temps à venir, la mode également est un signe des temps. Quand les ceintures se mettent sur les vêtements, époque puritaine. Le grand krach de 1930 a été annoncé en 1927-28 par l'événement très long, très étroit, sombre, qui annonçait déjà ce krach. Puisque quand l'événement s'allonge, tout va mal. Et quand l'événement raccourcit, tout va bien. Mais pas au moment même, c'est vraiment en avance. Quand les cheveux des femmes gonflent, les régimes tombent. Avant chaque révolution dans un pays, les femmes ont les têtes qui gonflent. Quand les femmes ont les cheveux lisses, tout va bien. Les régimes sont stables. Et actuellement, il y a de plus en plus deux types de vêtements que l'on rencontre dans la collection. Ce sont les vêtements de la superposition, c'est-à-dire la fuite devant une catastrophe, et les vêtements anti-feu devant la catastrophe qui se prépare pour nous. c'est-à-dire cet apocalypse de feu.
Et qu'est-ce qui vous fait croire à cet apocalypse ?
Écoutez, je suis médium. Je connais tout bien, très bien toutes les prophéties des temps à venir. Et de temps en temps, quand je me promène dans les rues à Paris, je m'arrête glacé tellement les hurlements des gens brûlés vifs sonnent à mes oreilles.
Vous ne pensez quand même pas que c'est pour l'hiver prochain ?
Non, il y a encore une bonne dizaine d'années à attendre.
Ma vision de ce monde et de ce que j'en sais, de ce que j'en pense. Tu sais comment les gens sont. La course aux richesses nous a fait perdre de vue le reste. On fonce sans limite de vitesse, la tête dans le guidon. Et à côté de ça, la terre continue à nettoyer. C'est l'histoire qui suit son cours. Avant d'arriver à son terme, on traverse une époque incertaine où ça sent la fin d'ici peu. Malgré la vie qu'on mène ici bas, d'ici ça pue. Chacun veut sauver sa peau, mais Dieu guide qui il veut sur cette planète. Faut que t'arrêtes de planer, y'a que l'oseille de fiable et de bien palpable. C'est la débauche et c'est pas sur le point de se calmer. C'est pas gagné, on peut pas nier qu'on danse avec le diable. En ces périodes troubles, on trouve de tout. Des baisers du crâne et tout plein de malades prêts à tout. Ça tourne au drame depuis les avions dans les tours. Y'a comme un truc bizarre qui flotte dans l'atmosphère. Je sais pas ce qui se trame derrière et dans les hautes sphères. À qui on se réfère, on s'informe et on observe, on absorbe l'information telle qu'on nous la donne, on l'accepte et nous voilà formatés comme des disquettes. Les gens sont confortés dans leurs a priori, leurs idées puantes. Tout le monde adopte le prêt à penser qu'un riz. Pays qui combat l'axe du mal, comme ils l'appellent. Un max de pétrole à la clé, une affaire personnelle qui met en danger la vie de milliers de civils. Si vraiment ils le veulent, on l'a vu par le passé. Chacun prétend mener sa guerre sainte et la religion à bon dos. Que Dieu me guide, je veux pas être dans le faux. La planète s'esquinte, dans certains bleds on a les pieds dans l'eau. Les saisons déréglées, un sacré bordel. Que des catastrophes, naturelles ou criminelles. Et je t'avoue que je vois pas le bout du tunnel. Si c'était pas autant la merde, j'aurais plus beaucoup de raisons de rapper. Si j'arrêtais, ça serait synonyme de paix.
Facilité, j'y ai trouvé l'inspi et le destin que j'ai mérité en toute sincérité. Profite de l'instant présent, faites qu'il dure longtemps. Que je fasse croquer mes héritiers sans vulgarité. On se presse et on stresse, triste moralité. On passe et on trace, sache trop de crades, trop de villes polluées, un pays malade. Signe d'un monde contaminé, la pluie tombe, tristesse, les éléments se déchaînent. Le sol tremble, la lave coule, haine et peine, la terre saine. L'océan devient noir. Le fric devient sale grâce à Total. Vous n'irez plus à la plage par hasard. Et l'homme évolue, n'a espoir quand l'industrie ne jure que par ses nettus. L'armement et le profit, ainsi ce monde est fait. État et société remplis d'actes imparfaits, de critères à respecter. Les moutons d'âme, mais les berges veulent combattre. Zeb bouge contre Saddam et Sharon contre Arafat. Les combats éclatent, sont longs et douloureux. Mais à la fin du massacre, aucun d'entre eux n'aura des bleus. Le dollar est en colère, petit constat global qui donne une dictature mondiale où tout le monde coopère. Que faire le contraire et leur tourner le dos, quitte à risquer un embargo et que ton pays mange des pierres. Tu nous a montré ta puissance à travers de gros polars, gagnant avec élégance et on a fini par le croire. T'as massacré les indiens, persécuté les noirs, après les diables vient les arabes, le tout en 200 ans d'histoire. Dénonce un discours haineux, dès le départ tu nous enfles, connard. Qu'est-ce que tu compares, le Coran et Mein Kampf. Irak, attention, nouvelle cible des mythomanes. Ça pue la coalition où Saddam se fait Sodome. Man, instinct farouche, attention au fiston qui finit le travail du daron. Appelle ça du bouche à bouche. Bien honte l'armement, mais aucune source économique. Pourquoi vous ne leur faites pas la guerre, vous les euros de la République? Des pédales, des vrais, cachés sous de beaux déguisements qui tuent pour leur gisement de pétrole. Mais je dirais, face à cette course mondiale, pas d'amour, mais d'or noir. Les States sont loin d'être à la bourre malgré deux tours de retard.
C'était le morceau Vision Chaotique de Sniper après Paco Rabanne, autre grand médium qui s'est bien planté dans ses prédictions apocalyptiques. Nostradamus, il a pondu en son temps un quatrain sur lequel des dizaines de traducteurs se sont paluchés. depuis 4 siècles, ceci afin de lui trouver une explication claire et juste. Ce quatrain est le seul dans lequel le prophète indique une date précise, juillet 1999. Il n'y annonce non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Il s'est peut-être foiré de quelques années seulement. Peut-être qu'il voulait parler du 11 septembre 2001 et de Oussama Ben Laden, ou sinon, il s'est pas planté. 99 est bel et bien une année de renaissance culturelle et artistique, par exemple. C'est vrai que cette année-là sortait Baby One More Time de Britney Spears, ou encore la comédie musicale Notre-Dame. Un cataclysme que cette année 1999. On va écouter un petit laïus sur cette foirade et cette interprétation de ces quatrains vieux de 4 siècles. C'est parti, on écoutera après Gérard Palapra avec un morceau qui s'appelle Pour la fin du monde. C'est parti.
Suscite par exemple un important courrier adressé à Michel Chomara. Ce Lyonnais est un spécialiste de Nostradamus. Dans un quatrain célèbre, l'astrologue provençal aurait évoqué le phénomène dans ses prophéties. Beaucoup y voient un risque. De fait, selon l'expert, Nostradamus ne voit rien de mal dans cette éclipse et certainement pas la fin du monde. Démystification, Virginie Fichet.
Nostradamus fait référence au mois de juillet 1999 et indique que les forces cosmiques imposeront un monarque d'une puissance terrifiante.
Par exemple, M. Chomara, autour de l'extraordinaire battage des prévisions de Nostradamus pour les mois de juillet et août 1999, je viens vous faire les miennes.
Des lettres comme celle-ci, Michel Chomara en reçoit des dizaines chaque semaine. Spécialiste de l'œuvre de Nostradamus, pour cet éditeur lyonnais, la dernière éclipse de soleil du millénaire est un véritable calvaire épistolaire.
Chacune de ces personnes pense avoir le secret. Ça, c'est quelque chose de très fort chez elle. Donc, je suis l'homme qui a connaissance de plus grand nombre de secrets sur cette terre.
Le secret pour notamment décrypter ce fameux quatrain.
L'an 1999, 7 mois du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressuscité le grand roi d'Angoulmois, avant, après Mars, régné par Benoît.
Publié en 1568, il annoncerait l'éclipse du 11 août 1999. Selon Michel Chomara, rien de magique ni de prophétique, juste quelques calculs astronomiques assaisonnés de vieilles peurs bibliques.
Lorsque Nostradamus rédige les quatrains de ses prophéties en 1555, il a parfaitement conscience et connaissance de l'éclipse de 1999. Il faut rappeler que les éclipses au XVIe siècle, comme les comètes, est annonciatrice de bouleversements.
Le bon sens scientifique de l'astronome Nostradamus peut donc avoir été influencé. De là à voir, comme certaines sectes, la fin du monde dans ce quatrain, il y a un pas que Michel Chomara se refuse à franchir.
Nostradamus n'est absolument pas un prophète de l'Apocalypse. C'est quelqu'un qui est pétri des différentes religions, qui est pétri de culture latine et grecque, qui est pétri d'humanisme, de la Renaissance.
Non à la récupération, s'indigne le spécialiste lyonnais. Nostradamus n'a pas prévu la fin du monde cette année. La meilleure preuve, ses prophéties livres des quatrains jusqu'en 3797.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements.
Et mes photographies,
laisse-les là.
Et ma boîte à outils,
laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent.
Mon avion, mon képi,
laisse-les là.
Ma canne et mon fusil,
laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement. Viens donc, il est temps.
C'était Gérard Palapra. Pour la fin du monde, un morceau de 1971. On continue après Paco Rabanne et Nostradamus avec ses bonnes nouvelles et ses raisons d'espérer une fin du monde un peu différée. ils se sont bien plantés eux aussi, ou en tout cas leurs interprètes, les Mayas. Rappelez-vous, on devait tous crever il y a 7 ans. Ça donnait à peu près ça.
C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya. L'oracle chinois I Ching. De même qu'un logiciel prophétique qui explore le cyberespace. 2012. La date présumée de la fin du monde. Mais ce funeste présage relève-t-il de la science? Les anciens oracles peuvent-ils vraiment prédire l'avenir? La réponse risque d'être lourde de conséquences, car l'histoire semble appuyer les dires de ceux qui sont convaincus de l'imminence du jugement dernier. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, des signes et des avertissements. Il y a des désastres et des ravages. Selon certains, les jours sombres et les cataclysmes qui nous affligent ne sont pas le fruit du hasard.
On n'a qu'à regarder les nouvelles de Fox ou de CNN pour être bombardé de menaces, comme d'éventuelles attaques terroristes ou nucléaires ou l'éclosion de nouvelles épidémies. J'ai l'impression qu'on est dans un processus apocalyptique.
Notre époque fait l'objet de prophéties depuis fort longtemps, dans les pages de la Bible, dans les temples de la Rome antique, dans les pyramides mayas, et même sur le web.
Un certain nombre de prophéties laissent entendre que quelque chose va se produire au 21e siècle.
Toutes ces mises en garde au sujet du jugement dernier qui découlerait du non-respect des lois concordent avec plusieurs prophéties de l'Ancien Testament.
Au cours de l'histoire, plus d'un oracle converge vers une seule et même date qui se rapproche dangereusement de nous.
Les Mayas désignaient le 21 décembre 2012 comme étant la fin de ce cycle.
Le calendrier de l'ancien peuple maya d'Amérique centrale est d'une précision telle qu'il peut prévoir les éclipses de lune qui se produiront des milliers d'années plus tard. Or, le calendrier maya prend mystérieusement fin au solstice d'hiver de l'an 2012.
Pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Blanche colombe à 300. tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Unilatéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit.
1970, Neil Young s'élève à son tour contre le saccage de notre planète avec cette chanson After the Gold Rush, où les habitants de la Terre ne doivent leur salut qu'à un vaisseau spatial n'embarquant que quelques élus vers un monde meilleur dans la galaxie. À la recherche du groove perdu, session 299, ça fait environ une demi-heure qu'on parle déluge, Fin du monde et jugement dernier à travers les fausses prophéties de Paco Rabanne, Nostradamus et du calendrier Maya. Autant de raisons d'espérer une fin du monde différée et de continuer à faire des enfants. On continue dans cette ambiance apocalyptique avec la bande-annonce d'un des nombreux films se basant sur un scénario catastrophe à l'américaine, The Day After, le jour d'après en français, qui sera suivi du morceau culte Armageddon de Willie Williams and the Soul Vendors. C'est parti, Apocalypse, encore, toujours.
Et si...
Sam, est-ce que ça va ?
Un jour...
Il a la trouille en avion.
Je vais très bien.
Un événement... changeait le monde entier.
Sam, tu me rends ma main ?
Allô ?
Pardon de vous appeler si tôt.
Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ?
Ouais.
Je crois que c'est ce qui se passe.
Tu es sûr de ne pas pouvoir rentrer à la maison avant demain ?
Si je pouvais, tu sais bien, je le ferais.
Tu rentres dès demain.
Surtout, ne t'inquiète pas pour moi.
Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée.
En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres.
Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme.
Voilà l'horizon de Los Angeles !
Cette tornade est passée et a détruit le panneau Hollywood !
Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur.
Il faut évacuer toute la population qui est au sud de cette ligne.
Que fait-on pour la population au nord ?
Si les gens vont dehors, la tempête les tuera.
C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York !
Dépêche !
Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier.
Je me débrouille pour venir vous chercher. Tu m'as compris ? Je viens vous chercher.
Thank you.
desiration.
Willie Williams and the Soul Vendors, Arma Gideon, une des raisons qui fait penser à notre fin de règne imminent, c'est le réchauffement climatique qui semble inéluctable si on continue comme ça. On nous parle de plus 4, plus 2 à l'échelle du globe, voire plus d'ici 2100. Mais là encore, il y a quelques raisons d'espérer si l'action politique et les comportements changent radicalement d'ici quelques années. Comme dans tous les grands bouleversements de société, il y a des éclaireurs, des pionniers, des gens qui, par leur acharnement, montrent qu'une action coordonnée et volontariste pourrait être notre salut, comme ce scientifique russe Sergueï Azimov qui essaie de contrecarrer la fonte du permafrost en essayant de recréer un écosystème, celui qui existait là-bas il y a 15 000 ans, lorsque mammouths, bisons et autres grands mammifères broutaient le sol sibérien. Son postulat de départ, c'est que le manteau neigeux actuel isole le sol et ne permet pas de recharger le permafrost. Si ce manteau de neige devient plus faible, voire disparaît au moins ponctuellement sous l'effet des grands animaux qui cherchent à brouter, comme c'était le cas en cette fin de période de glaciation, eh bien, le gel et les grands froids peuvent pénétrer plus en profondeur et ainsi freiner la fonte de ce glacier souterrain. Ce monsieur y croit dur comme fer, tout comme son fils qu'il suit dans sa douce folie utopique, qu'ils vont chercher des animaux par leurs propres moyens, parfois très loin. C'est une belle histoire que vous pouvez retrouver en intégralité sur Arte. L'extrait de ce reportage sera suivi par un morceau de Cat Stevens, Where Do the Children Play.
Là-bas se joue une course contre la montre engagée par un géophysicien et son fils. Car dans le sous-sol gelé de la Sibérie, une bombe climatique est amorcée. Le permafrost est en train de fondre. Pour enrayer ce phénomène, Sergueï et Nikita Zimov tentent de recréer un écosystème le plus proche possible de celui de l'âge de glace. Car vous allez le voir, les animaux herbivores ont un rôle capital. Ne manque plus que les mammouths qui peuplaient les lieux il y a des dizaines de milliers d'années. C'est un reportage de Barbara Laure et Cécile Tuillier.
On est sur la Kolyma, un des grands fleuves de l'Arctique. Mais les gens, quand on dit Kolyma, ils pensent directement au goulag de Staline.
Aujourd'hui, c'est un tout autre drame qui se joue ici, un drame climatique. C'est ce que Nikita Zimov et son père Sergueï veulent nous montrer. Sergueï est géophysicien, grand spécialiste du permafrost. Le permafrost, c'est comme un immense glacier souterrain qui va de la Sibérie jusqu'en Alaska sur 20% de la surface terrestre. Or, ce permafrost commence à fondre.
1 million de kilomètres carrés vont bientôt ressembler à ça. Vous voyez, tout ce qui brille, c'est de la glace. C'est très intéressant parce qu'ici, on voit comment le permafrost va fondre.
C'est un des seuls endroits au monde où on peut voir du permafrost à l'air libre, mis à nu par le fleuve. La fonte a révélé un pan entier de notre passé, le Pléistocène, l'âge de glace.
Là, j'ai trouvé une dent de bébé mammouth et une partie de mâchoire. Les dents de mammouth adultes sont grandes comme ça. Là, c'est un petit. À partir des ossements qu'on trouve ici, on peut estimer le nombre d'animaux qui vivaient là autrefois.
Et vivaient là autrefois un mammouth, 5 bisons, 7 chevaux et 15 rennes par kilomètre carré.
Ce permafrost, c'est du sol qui date de l'époque des mammouths. Ici, regardez, vous voyez des racines d'herbe qui dépassent. C'est de la matière organique fraîche. Il y a encore des tiges. Et ça, c'est de la glace.
Dans cette glace, des microbes dorment depuis des dizaines de milliers d'années. Avec la fonte, ils commencent à se réveiller et à manger toute la matière organique prisonnière du permafrost. Et ce faisant, ils produisent des quantités astronomiques de gaz carbonique et de méthane.
C'est une bombe climatique. Car l'un et l'autre sont des gaz à puissant effet de serre. Si cet immense réservoir de gaz devait se libérer, le réchauffement va s'accélérer à tel point qu'on ne pourra plus rien faire pour l'arrêter.
Mystic Eyes, Perilous Time, et non Cat Stevens comme annoncé. On enchaîne avec une catégorie bien à part de la population, un peu comme les témoins de Jéhovah. Ils croient que le jugement dernier est proche et cherchent à se prémunir au maximum pour être prêts le jour du déluge. On les appelle les survivalistes, des gens qui vivent dans la peur et l'angoisse du chaos et qui ont choisi de faire des provisions, s'équiper d'un bunker, comme si ce petit cocon allait les préserver de tout danger. Ils ne mourront peut-être pas tout de suite, c'est vrai, mais à terme, dans leur futur monde de Mad Max et Waterworld, ils auront affaire à d'autres psychopathes comme eux qui voudront bouffer leurs conserves et piquer leur manuel de survie dans le désert. On écoute un survivaliste américain nous raconter son obsession dans un de ses merveilleux reportages à guicheurs sur le sujet. On écoutera ensuite un morceau de Circonstance Judgment Time de Junior Ross. C'est parti.
Voilà mon kit de cuisine. Il y a un grill pliant, des cuillères. Ça, c'est du bois qui sert à faire du feu. Là, j'ai aussi un couteau.
Matériel de cuisine, gourde, kit de premier secours ou encore manuel de survie. De quoi faire face à toute situation d'urgence.
Je garde ce sac dans ma voiture. Mon fils a le sien, ma femme aussi. Tous nos sacs sont prêts. Ça n'a aucun sens de les avoir sous la main s'ils ne sont pas prêts à être utilisés.
Ce pompier de 39 ans est devenu prépaire en 2010. Depuis, il entasse son équipement un peu partout dans son appartement. Au total, il a dépensé près de 10 000 dollars en matériel de survie.
Si on rationne, on peut tenir un an. Si nous mangeons normalement, on tient 6 à 8 mois.
Jason se prépare avec autant de minutie car il a été traumatisé par l'ouragan Katrina en 2005. Pendant plusieurs jours, les habitants de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, au manque d'eau, de nourriture et aussi au pillard.
J'ai tout cet équipement parce qu'on ne sait jamais quelle catastrophe peut arriver. L'objectif est d'être autosuffisant. On ne peut pas compter sur le gouvernement ni sur les voisins. On ne doit compter que sur soi-même.
Alors depuis 2011, Jason gère un réseau de plusieurs centaines de survivalistes, avec comme objectif apprendre les techniques de survie en milieu urbain.
S'il n'y a plus rien à manger, s'il n'y a plus d'eau, on va avoir besoin de ces techniques pour évacuer la ville. S'il n'y a plus de policiers, plus de pompiers, aucune loi martiale, ce sera le chaos.
Un scénario de fin du monde proche des films hollywoodiens auxquels Jason se prépare très sérieusement. Car après la catastrophe, les prépaires s'imaginent qu'ils vont devoir vivre dans la nature comme l'homme des cavernes. Alors pour se tenir prêt, Jason participe à des stages de survie à seulement 1h30 en voiture du cœur de Manhattan. Une quinzaine de survivalistes, femmes et hommes de tout âge, sont là pour le week-end. Objectif de ce stage, apprendre à être autonome dans un environnement naturel.
Ok. Set the second Y.
Vous mettez le deuxième pied comme ça, vous faites tourner celui-ci et celui-là va servir de support.
Premier défi de la journée, construire un abri. La priorité pour survivre dans la nature.
On les familiarise avec les pratiques anciennes. Ils arrivent tous avec leur équipement moderne. Alors on leur apprend à ne plus avoir besoin de porter une tente ni un sac de couchage.
Mission réussie pour ces apprentis Robinson, enfin presque.
Et c'est fait pour des nains ou quoi ?
Si je dois quitter New York et me réfugier en milieu naturel, je saurai exactement quoi faire. Comment me déplacer en forêt, de quoi je peux me nourrir, poser des pièges, chasser.
Pendant 2 jours, ce petit groupe de survivalistes va apprendre des techniques parfois préhistoriques. Trouver de l'eau, reconnaître les plantes comestibles ou encore faire du feu. Un savoir-faire pas si évident.
Déjà que j'ai du mal à allumer un feu avec un combustible. Le monde d'aujourd'hui est dangereux. Si je n'ai plus accès aux ressources, ces pratiques vont me permettre de rester en vie. Tout le monde devrait savoir ça.
Savoir faire du feu ou posséder un bunker vont-ils permettre à ces Américains de survivre à la fin du monde ? Parano prévoyant, les survivalistes tentent avant tout de se rassurer dans une société où la peur est devenue un business.
I can hear the trumpet sounding.
Junior Ross and the Spear Judgment Time. On termine avec le survivalisme français, souvent associé au mouvement d'extrême droite. Mais le mouvement semble s'étoffer de nouveaux profils, comme le suggère ce dernier extrait de reportage du jour. On écoutera ensuite Yabby You Judgment Time. C'est parti.
C'est que le terme de survivalisme, on pense tout de suite à des types aux États-Unis qui sont fans d'armes et qui s'enterrent dans des bunkers en attendant la Troisième Guerre mondiale. En fait, ça, c'est un épiphénomène et c'est pas du tout la réalité. Il faut revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup moins dramatiques qui sont en fait, qui consistent à retrouver un lien avec la nature et de pouvoir se débrouiller. C'est, le courant écologique, en fait, a beaucoup fait dans ce sens-là. Et aussi, bon, malheureusement, certains faits divers, je ne pense pas forcément au terrorisme, mais aussi tout simplement à des catastrophes naturelles, où les gens maintenant sont conscients que des risques existent et que le meilleur moyen finalement d'arriver à résoudre un problème lorsqu'il se présente, c'est de le résoudre soi-même.
On n'est pas du tout dans un esprit de catastrophisme ou de fatalisme. Loin de là, en fait, au contraire. Mais nous, on a un petit peu creusé et on sait que c'est la philosophie qui est tout autour, à savoir l'autonomie, le respect de la terre, de ses ressources, aussi savoir aller chercher au fond de soi les ressources de l'être humain, se dépasser.
On a vu des nourritures lyophilisées qui se gardaient jusqu'à 20 ans. Bon, bien sûr, ça ne va pas péter, entre guillemets, demain. Mais on ne sait pas. Donc on est dans l'attente, entre guillemets, de quelque chose qui peut arriver.
Une alternative à la consommation de masse, en fait. Essayer de se réapproprier notre environnement immédiat. Être acteur et non pas que consommateur, voilà, je crois.
J'étais responsable du raccordement électrique des parcs éoliens sur le réseau national. Et j'ai décidé de quitter le milieu il y a quelques années. Alors là, on est en train de fabriquer des pales d'éoliennes. Des pales d'éoliennes qui vont ressembler à ça, sur ce genre de machine. Il y a le défi de la transition énergétique aujourd'hui, les dérèglements climatiques qu'on connaît. Donc je pense qu'il est temps maintenant de prouver et de montrer qu'il existe d'autres choses, des alternatives, comme on dit.
Survivalisme, pour moi, c'est un joli mot, mais c'est surtout quelque chose qui doit se faire tous les jours. J'ai un exemple tout simple, par exemple, qui va parler notamment aux Parisiens. Quand il y a eu la grosse chute de neige, on a vu sur les médias français des tas d'interviews, dont à un moment donné, un monsieur très gentil qui était coincé dans sa voiture pendant toute la nuit, la galère, il a failli mourir, c'était exceptionnel. Sauf que ce monsieur, il était quand même à côté de la forêt et que s'il était descendu de sa voiture, il aurait coupé 2-3 branches, il aurait fait un feu, il aurait appelé son collègue qui était derrière, ils auraient passé peut-être un meilleur moment, surtout ce moment aurait été positif. Pour moi, le survivalisme, c'est ça.
Judgment time. The nation's
Vivian Jackson, alias Yabby You, Judgment Time. Le jugement dernier, le grand déluge, l'effondrement de notre civilisation, la fin du monde, l'apocalypse, la Mageddon. On a causé tout ça pendant une heure avec, je l'espère, une nouvelle bouffée d'oxygène pour tous les angoissés qui croient qu'on va tous crever bientôt. Pour cela et ceux qui ont suivi le début de l'émission et qui sont encore dubitatifs, ne vous inquiétez pas. Paco Rabanne dit que l'Armageddon est pour bientôt. On a donc quelques milliers d'années devant nous. Je vous laisse avec ce conseil des Viceroys. Aime déjà avant qu'il ne soit trop tard. Tout un programme, c'est le mot de la fin. C'était à la recherche du groove perdu. Restez sur votre radio locale tant qu'elle est encore là. Bye.
Praise every day.